13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Alors vous pouvez le constater, il y a un décalage horaire aujourd'hui sur Beurre FM, je vous ai annoncé 11h, mais il est bien midi, c'est les tables de Manu, comme tous les samedis. Alors aujourd'hui, une nouvelle invitée, hein, comme tous les samedis dans l'émission, je vous rappelle le principe des tables de Manu, chaque semaine, j'invite des gens à dîner au restaurant avec moi le soir, et puis ils reviennent dans l'émission pour dire ce qu'ils ont pensé de ces restaurants, puis aussi... parler un petit peu de leurs activités, de ce qu'ils font dans la vie, parce que je choisis des gens qui ont écrit un livre et qui viennent en parler, ou bien qui ont un métier qu'on connaît pas bien et qui nous apprennent un petit peu à le découvrir. C'est le cas de Lila Graffin aujourd'hui, qui est productrice de cinéma, qui est avec nous. Bonjour Lila.
Bonjour Manu.
Alors, donc Lila, vous développez un département cinéma chez Beurre, mais pas n'importe quel cinéma. Alors Beurre, c'est une société de production publicitaire à la base, hein, qui commence à produire des films aujourd'hui, des longs-métrages, des courts-métrages. Et la particularité de Beurre, c'est que Beurre est à Paris, Londres, mais aussi Alger. Et vous êtes un petit peu la madame cinéma algérien.
Oui, c'est ça Manu. En fait, Beurre est une société de films publicitaires. Qui a été créé en 2008 et depuis maintenant un an, ils ont décidé de développer leur département cinéma avec cette particularité d'aller rechercher des talents en Algérie puisqu'ils ont un bureau sur Alger. Voilà, donc à la recherche de talents émergents pour fabriquer des films de cinéma, voilà, qui on l'espère auront une ambition, enfin une diffusion dans les plus grands festivals et dans les salles de cinéma.
Ouais, alors le fait qu'on vous ait choisi chez Beurre pour produire des films de jeunes réalisateurs algériens, on peut parler de jeunes cinéma algériens, je pense, parce qu'il y a une émergence vraiment là en ce moment de jeunes réalisateurs algériens. Qui font de plus en plus parler d'eux. Et bon, il y a pas de hasard parce que vous avez déjà produit des films de réalisateurs algériens et vous êtes, comme votre nom de femme mariée ne l'indique pas, Lila Graffin, vous êtes d'origine algérienne.
Absolument.
Donc vous avez des projets là en développement actuellement avec Beurre, je crois.
Oui, je rebondis sur ce que vous disiez sur le cinéma algérien qui émerge dans les plus grands festivals internationaux. On a eu cette année à Cannes deux films d'Algérie, le film d'Amin Sidi Boumediene, Abou Leila, et le film de Mounia Medour, Papicha, qui représente d'ailleurs aujourd'hui cette année l'Algérie aux Oscars. Et effectivement, moi j'ai déjà produit sur place à Oran un court-métrage de Amel Kateb, Nous mourrons tous, en 2009.
Oui, qui est la nièce de Yassine Kateb, hein, qui est un grand écrivain algérien. Et puis c'est un film d'ailleurs qui a eu pas mal de prix, hein, notamment le prix de la maison du film court.
Absolument.
Et le prix France Télévisions, c'est ça aussi en 2011.
Voilà, il a été élu meilleur film France Télévisions en 2011. Il a obtenu des prix dans le monde entier. Enfin, c'était une très très belle réussite. Et ensuite, en 2015, j'ai réussi à produire un long métrage de fiction.
D'accord. Oui, ce qui est pas. Alors, vous dites j'ai réussi à produire. On se dit pour un producteur, c'est normal de produire des films, mais c'est vrai que déjà faire des films, c'est pas facile parce qu'il faut le producteur. C'est pas lui qui met son argent, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça existe aussi, mais c'est ce qu'on appelle les producteurs associés. Hein, mais vous êtes productrice exécutive, on peut
déléguée.
Dire ça,
ouais,
déléguée. Donc vous cherchez l'argent. Hein, ça c'est votre. Vous nous en parlerez un petit peu plus au cours de l'émission. On parlera un peu de votre métier dans le détail. Mais bon, déjà trouver de l'argent, c'est pas facile. Hein, c'est pour ça que vous dites j'ai réussi à. Et puis en plus, bon, là, vous avez un film algérien. C'est vrai que le cinéma algérien, c'est pas un cinéma qui est omniprésent dans le monde. Donc, c'est d'autant plus difficile de réussir à boucler. Alors là, vous avez fait une copro internationale, du coup.
Voilà. On est parti sur un scénario qui était écrit par Aziz Chouaki, dramaturge algérien qui malheureusement est décédé cette année. L'idée d'un très joli scénario, une fable humaniste, l'histoire d'un instituteur qui veut monter une équipe de foot junior dans un village au pied des Aurès, avec en filigrane des questionnements sur la laïcité, le statut de la femme dans la société, le délaissement des populations rurales. Donc à la fois une fable humaniste, une comédie.
Oui, des vrais sujets pour l'Algérie en plus.
Voilà, hein, on s'amuse, c'est pas vindicatif, on se marre. Et à la fois, on se pose des questions sur la société d'aujourd'hui.
D'accord, alors ce film-là, il a eu un beau succès aussi parce qu'il a été sélectionné au Festival du film méditerranéen de Montpellier où il a obtenu le grand prix du public. Hein, et je précise que ce sont des productions que vous avez tournées en Algérie avec des collaborateurs et des techniciens algériens sur place. C'était, alors pour vous qui ne connaissiez pas bien l'Algérie avant de faire de la production de films là-bas, bien que d'origine algérienne, vous avez un petit peu fait un retour aux sources en Algérie, vous avez découvert un peu vos racines, enfin redécouvert.
Oui, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. C'était pour moi une idée de renouer avec mes racines, mes origines, et de vivre une aventure humaine. Donc à travers un prisme cinématographique et non pas familial.
Oui, bien sûr, oui, effectivement, oui. Alors attendez, parce qu'un prisme familial, hein, parce que, bon, vous savez que on enquête un petit peu avant de faire nos émissions, mais bon, le cinéma, pour vous, ça a commencé un petit peu tôt, et pour une raison que vous allez nous expliquer, c'est lié au cinéma, le Louxor, hein, où vous passiez souvent quand vous étiez enfant, expliquez-nous ça.
Oui, c'est très jeune, je dois avoir 13-14 ans, et ma mère a été un moment, le temps de quelques mois, ouvreuse au cinéma Le Louxor.
Ouais, qui est un très beau cinéma, hein, voilà. À Barbès-Rochechouart, qui renaît un petit peu aujourd'hui, hein, de ses cendres, qui a été laissé très longtemps à l'abandon. Oui.
Voilà, et qui passait à l'époque des films uniquement égyptiens, en fait. Hein, donc j'ai vu tout le cinéma traditionnel égyptien des années 50 à cette occasion-là.
Ça a influé un petit peu sur votre choix de travailler dans la production audiovisuelle ou c'était juste anecdotique?
Non, moi ce que j'aime dans le cinéma, c'est l'idée du récit, des personnages, on raconte des histoires, mais c'est pas du tout quelque chose qui a influé sur mon parcours professionnel.
D'accord. Alors vous avez travaillé beaucoup dans le court-métrage, puisque vous étiez à une époque à la Maison du Film Court, vous sélectionniez les scénarios, c'est ça qui allait être produit par...
C'est pas exactement ça. Alors, c'est une association de loi 1901, donc ouverte à tous, sous forme d'adhésion, mais très très peu chère, où on peut arriver avec un scénario, on peut être comédien, on peut arriver avec une idée de faire un film, et il y a des dispositifs d'accompagnement d'auteurs, où on accompagne à l'écriture les auteurs de court-métrage, et qui s'ensuit ensuite des prix, des labels où on peut donc gagner, ce qui s'est passé pour Amel Kateb notamment, qui avait gagné le prix de la Maison du Film Court.
Oui, parce qu'Amel Kateb, donc le film est d'abord passé par la Maison du Film Court, et il se trouve qu'après c'est vous qui avez produit le film.
Absolument. Ouais. Et ensuite, c'est une dotation en prix technique qui permet à des jeunes réalisateurs de pouvoir réaliser leur film. Il y a aussi un accompagnement vers des sociétés de production, donc sur la base de la lecture du scénario, on accompagne des jeunes auteurs réalisateurs vers des sociétés de production dont la ligne éditoriale pourrait se rapprocher de l'histoire.
D'accord, c'est-à-dire que si jamais des jeunes réalisateurs écoutent Beurre FM et qu'ils ont des projets de scénario ou autres, de court-métrage, ils peuvent s'adresser à la Maison du Film Court.
Voilà, qui a changé de nom depuis cette année, qui s'appelle maintenant la Maison du Film.
D'accord, tout court. Maison du Film tout court, mais c'est plus des cours seulement.
Vous allez sur Internet, vous pouvez vous inscrire en ligne. Il y a des formations également pour des comédiens, pour des auteurs, pour des jeunes techniciens et des jeunes producteurs.
D'accord. Bon, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui s'intéressent à la production audiovisuelle, cinématographique, qui veulent poser des questions à Lila, notre invitée du jour sur sa carrière, ils peuvent nous appeler 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. Et puis, si vous avez des bonnes adresses de tables aussi, hein, parce que les tables de Manu, c'est aussi et surtout de la gastronomie. Si vous avez des adresses que vous voulez partager avec nous, vous nous appelez au 01 53 48 3000.
Bon, alors... je voulais finir sur la...
Oui, allez-y, Lila, je vous en prie. Je vous en prie, on a du temps.
C'est une association qui s'adresse à des gens qui ne sont pas du Sérail.
D'accord.
Voilà, donc vous n'avez pas de réseau, vous ne connaissez personne dans le cinéma, vous voulez faire du cinéma, adressez-vous à cette association.
Oui, c'est ça, donc c'est vraiment un marchepied, on peut dire.
Absolument.
Une porte d'entrée pour le cinéma, donc on est pas, même si on n'a pas forcément fait une école de cinéma, ni une école d'écriture ou autre.
Exactement.
Si on a des bonnes idées, alors après, bon, ça c'est la Maison du Film qui vous dira si l'idée est bonne, j'imagine, mais si vous avez des idées de films, des idées de scénarios qui vous semblent viables, on peut s'adresser donc à à un organisme comme la Maison du Film pour déjà pour avoir une évaluation de l'intérêt du scénario, un regard extérieur et surtout professionnel, et puis après un accompagnement. Ça peut être vraiment un bon ticket d'entrée s'il y a des gens qui...
Beaucoup de gens sont passés par là et ont réalisé par la suite leur premier long métrage.
Oui, parce qu'on n'imagine pas le nombre de gens qui écrivent tout seuls chez eux sur leur bureau, mais qui écrivent juste pour eux, et qui ont parfois des idées et du talent qui pourraient effectivement donner lieu à des belles histoires en images, c'est-à-dire des films. Bien, alors on est allé manger au restaurant cette semaine, Lila. On a fait deux restaurants. Alors un qui est un restaurant qui a été ouvert par quelqu'un que nos auditeurs connaissent bien, puisqu'elle vous a accompagné sur l'antenne de Beurre FM tout au long du Ramadan, c'est Sherazade qui on vous en a déjà parlé, a ouvert son restaurant Mosaïque by Sherazade, boulevard Sébastopol, dans le 3e à Paris. Alors là, effectivement, là aussi, c'est un petit retour à vos racines familiales, hein, puisque on peut dire, je pense, que le Mosaïque, c'est le premier restaurant de cuisine algérienne à Paris, puisque les Algériens qui ont des restaurants à Paris, soit ils font de la cuisine marocaine, soit ils font juste des grillades, mais la vraie cuisine algérienne, celle qu'on mange à la maison, et pour cause, puisqu'on la mange à la maison, on la trouve pas dans les restaurants, y compris d'ailleurs en Algérie. Hein,
c'est vrai.
En Algérie, si on va à Alger, c'est vrai qu'il y a peu de restaurants qui font de la vraie cuisine algérienne
familiale.
Et c'est le cas justement chez Razad, et on en est bien content. Donc on va parler de ça en deuxième partie d'émission. Et puis on est allé, bon là toujours Méditerranée, hein, on est allé un petit peu en Italie, dans un restaurant italien qui s'appelle Pane e Olio. Alors c'est pas un inconnu, hein, puisque c'est Giuseppe Messina qui a une longue carrière à Paris et qui est un très bon cuisinier qui est très attaché à la qualité des produits. On a pu le constater d'ailleurs ensemble, Lila.
Ouais.
À la qualité des produits et puis à l'authenticité de la cuisine. Alors revenons deux secondes à votre métier de productrice de cinéma. On a l'image du producteur de cinéma. Alors c'est le vieux bonhomme un peu adipeux, chauve, avec un gros cigare, dans un fauteuil en cuir. C'est pas du tout ça, un producteur de cinéma. Enfin, en tous les cas, vous ressemblez pas à ça, je le dis aux auditeurs.
Bah ça, c'est un peu l'image d'Épinal, hein, qu'on a du producteur. Je pense que ça a pu exister jusqu'à la fin des années 80. Mais avec la multiplication des diffuseurs, des réseaux, des moyens de diffuser des films, il y a eu une multiplication de sociétés de production qui ont émergé et une multiplication aussi d'auteurs via toutes les formations qui existent, les écoles de cinéma. Et non, aujourd'hui, un producteur, c'est plutôt un technocrate, hein. C'est plutôt quelqu'un qui va faire des dossiers, trouver des financements. On est bien loin de l'idée du producteur qui appelle Canal+ comme ça et qui dit bah moi j'ai ça, j'ai Piala, combien tu me donnes?
Oui, c'est ça. Oui. Oui, maintenant l'argent coûte cher, on va dire, si on peut s'exprimer de cette façon. Et donc l'argent, je crois que c'est au-delà de la partie après opérationnelle qui est le suivi, l'organisation et l'administration de tout le tournage de l'écriture, du final, de la recherche des comédiens, du tournage du film, qui est la partie opérationnelle, il y a une partie très importante en amont qui est celle du financement, quoi.
Tout à fait. Alors avant le financement, qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est d'abord un bon scénario.
Oui, alors ça, c'est la base. Donc, voilà. Un scénario, ça ressemble à quoi quand on reçoit un scénario? Parce que c'est quelque chose qui est déjà écrit avec des dialogues, ou ça peut être une feuille avec une idée, simplement juste un synopsis? J'imagine que vous recevez tout et n'importe quoi.
Alors, il y a différentes étapes, hein. Vous pouvez soit recevoir un traitement, c'est-à-dire un résumé d'histoire sur une dizaine de pages.
D'accord, oui, ce que j'appelais un synopsis à tort. Alors, ça s'appelle un traitement, donc, ouais.
Ou un traitement. Ça c'est l'étape avant le scénario, en fait.
Alors le scénario, ça veut dire que là il y a déjà des dialogues, il y a déjà des indications,
voilà,
hein, extérieur nuit, intérieur jour.
Exactement, ouais. Vous avez des indications scéniques et vous avez les dialogues, en fait, tout simplement.
D'accord.
Séquence après séquence. Donc c'est ce qu'on appelle une continuité dialoguée.
C'est ce qu'on appelle le script aussi, c'est ça?
Ouais.
Oui,
mais lorsqu'il y a des dialogues, c'est vraiment la continuité dialoguée.
D'accord. Ok, donc c'est vraiment le contenu d'un film.
D'un film, qui va servir ensuite, qui est un outil technique, puisque donc tout y est répertorié, donc si c'est jour, si c'est nuit, dans quel lieu, quels sont les personnages.
Est-ce que c'est ça, d'ailleurs, le premier élément qui permet d'estimer le budget nécessaire pour réaliser un film, maintenant qu'on sait où ça se tourne, combien de comédiens, etc.
Absolument.
Parce que j'imagine que c'est un travail de fourmi d'estimer un budget.
Tout à fait. C'est le travail d'abord d'un assistant réalisateur qui va faire un dépouillement.
D'accord.
puis un plan de travail à partir duquel on va pouvoir estimer un devis, un coût de production.
Ok. Alors là, c'est le début, j'imagine, du travail du producteur, enfin de la productrice en l'occurrence, en ce qui vous concerne. Et après vient la partie la plus compliquée, c'est de trouver de l'argent. Alors comment vous faites? Vous allez pas voir comme moi, si je veux acheter une voiture et que j'ai pas l'argent, je vais aller voir un banquier, je vais lui demander un prêt. Dans le cinéma, c'est pas du tout comme ça. Alors qu'est-ce que vous faites, vous? Il y a des banques parfois, d'ailleurs. Est-ce que des banques parfois?
Mais pas à mon niveau. Ouais. Là, on parle sur des grosses comédies, sur un gros casting où des banques peuvent considérer qu'il y aura un retour sur investissement.
Il y a même des filiales de banques d'ailleurs spécialisées dans le cinéma, je crois maintenant.
Bien sûr, ça a toujours existé. Non, moi à mon niveau, donc c'est du, on va dire, on part sur du cinéma d'auteur, du world cinéma entre guillemets. Donc moi je pars déjà sur une idée de la coproduction, parce que c'est compliqué de financer 100% d'un film algérien sur le territoire français.
Une coproduction, c'est une association entre plusieurs financiers, quoi, plusieurs maisons de production.
Entre plusieurs territoires.
Territoires aussi, d'accord.
En fait, c'est d'abord l'idée de territoire. Donc on va trouver des financements sur son territoire.
Ok.
Donc là, en l'occurrence, sur le film que j'ai produit, c'était une coproduction entre la France, l'Algérie et la Belgique.
D'accord. Là, on parle effectivement de Team GAD.
De Team GAD, absolument. Et donc là, voilà, donc de trouver donc un partenaire sur un territoire qui va, lui aussi, donc déjà avoir un coup de cœur pour le scénario, pouvoir le défendre, savoir à qui s'adresser pour trouver des financements, trouver ses financements. Et en l'occurrence, puisque pour ce qui a été de mon coproducteur algérien, c'est lui qui s'est également occupé de la production exécutive du film, c'est-à-dire l'organisation du tournage en
D'accord.
Algérie.
Alors là, avec Burst, vous êtes implanté à Londres, à Paris et aussi à Alger. Donc on va faire une petite pause et puis juste après, on va commencer à parler un petit peu de gastronomie et puis vous nous direz aussi comment ça se passe quand on est à cheval sur trois pays, comment on travaille pour produire un film. On se retrouve dans un instant pour l'étape de Manu avec Lila Graff.
Les tables de Manu reviennent dans un instant. Jusqu'à 13h, les tables de Manu sur Beurre FM.
De retour dans les tables de Manu, l'émission qui fait passer ses invités à table et même repasser à table. Aujourd'hui, c'est Lila Graffin qui est avec nous, productrice de cinéma, et avec qui nous sommes allés cette semaine manger donc chez Sherazade, que vous avez retrouvé pendant tout le Ramadan pour vous parler de la cuisine du Ftour, et qui a ouvert récemment son restaurant Boulevard Sébastopol, premier restaurant algérien de cuisine algérienne de Paris, le Mosaïque. C'est 110 Boulevard Sébastopol à Paris 3e. Alors on va rentrer dans le détail de ce qu'on a mangé là-bas après, mais on y a mangé notamment une fameuse rechta. Donc la rechta, qui est un plat algérien, voire même algérois, c'est un peu le jambon coquillette d'Algérie, la rechta, non? C'est vraiment le plat familial par excellence, quoi, qu'on mange à la maison.
On peut résumer ça comme ça. Ouais, c'est un plat typiquement algérois, moi, que ma mère nous préparait quand j'étais enfant, qui est accompagné de pâtes fraîches, en fait, d'une sauce.
Oui, ce sont des pâtes qui sont toujours faites maison. Il n'y a pas de machine qui puisse faire les pâtes de la rechta, en fait.
Alors, après, ça s'achète dans le commerce.
Oui, ça commence, oui.
Voilà, et autrement, donc c'est accompagné de poulet et surtout de légumes qui sont des navets, des courgettes. Donc c'est ce qui donne accompagné d'une sauce blanche.
Une légère amertume.
Voilà, c'est un goût très particulier qu'enfant, on n'aime pas forcément, justement. On aime rarement le navet. Et voilà, et
finalement, alors, on ne va pas le comparer au jambon coquillette à ce moment-là, c'est plutôt les épinards.
Les épinards, ouais.
D'accord, alors, donc un plat que vous préparez votre maman. Il y a d'autres plats comme ça de votre enfance que votre maman vous préparait. Votre maman, elle cuisinait plutôt européen, parisien, ou elle vous faisait des plats algériens quand même?
Des plats algériens, mais assez basiques. Bon, on passe sur des couscous, évidemment, des petits tagines, de la chouchouka, des poivrons grillés, des kémias, des choses assez simples.
D'accord, parce que vous êtes d'origine algérienne, mais né en France, et puis l'Algérie, enfin, c'est votre pays d'origine. Vous l'avez rencontré assez tardivement, finalement.
C'est ça. Il y a eu tout de même, on ne va pas l'oublier, hein, les 15 années de terrorisme.
Oui.
En fait, personne ne retournait là-bas. Et voilà, c'est vraiment, je vais me répéter, mais c'est vraiment à travers le prisme du cinéma que j'ai eu envie de retourner et de...
C'est un joli hasard, on peut dire.
Voilà, et de filmer cette terre qui a une lumière en plus très particulière, qu'on retrouve dans tous les films algériens. C'est une lumière d'Afrique du Nord qui est très très belle. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai pu renouer avec, avec ses racines.
D'accord. Alors quand, justement, quand on découvre un pays dont on a connu la culture un peu par procuration, c'est-à-dire par l'intermédiaire de votre maman, j'imagine, hein, qui vous a parlé de sa jeunesse en Algérie, de la culture algérienne, etc. Quand on arrive sur le sol algérien, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a une alchimie qui vous parle un peu?
Ouais, enfin moi la première fois, donc j'y suis allée enfant, hein, ensuite donc j'ai cessé d'y aller, adolescente, etc. Et donc j'y suis retournée donc adulte. Moi ça a été vraiment la rencontre avec les Algériens, en fait, tout simplement, qui sont, sans faire de jeu de mots, mais voilà, qui sont des gens très drôles, en fait. Voilà.
Ouais, ouais.
Moi, c'est l'humour que j'adore là-bas, une façon très particulière d'envisager la vie, qui est un peu plus cool à la fois. Et puis voilà, cet humour, on se marre tout le temps, on se marre de soi-même, on est dans de l'autodérision malgré la difficulté de la vie au quotidien.
D'accord, oui, parce que comme je le disais, vos films, vous travaillez avec des techniciens locaux, algériens.
Tout à fait.
Votre premier tournage en Algérie, ça s'est passé où ?
Le premier tournage, ça s'est passé à Oran.
D'accord, très belle, très, très jolie ville.
Très jolie ville, qui est complètement ouverte sur la mer, c'est vraiment le pendant de Marseille. Donc on est en 2009 à ce moment-là, on est au sortir du terrorisme depuis quelques années déjà, et ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas vu une équipe de production française arriver. Donc on a travaillé en partenariat avec l'équipe de l'ENTV, qui est l'équivalent de France Télévisions.
D'accord.
En Algérie, qui nous ont proposé des techniciens pour travailler avec nous sur un court-métrage. Et là, ça a été une très très belle rencontre avec la population d'Oran, qui n'a eu de cesse de nous ouvrir toutes les portes, des maisons, des appartements, parce qu'on cherchait à ce moment-là des décors naturels, on cherchait à filmer dans les appartements.
Et donc vous êtes à travers ce tournage, vous êtes rentré un petit peu chez les...
Dans l'intimité des
Algériens.
Des Oranais, qui sont en plus un peuple, enfin, dans l'Algérie, des gens quand même un peu à part, et beaucoup plus ouverts, on va dire, plus joyeux. Et voilà, et ensuite ça a été un concours de ceux qui allaient pouvoir nous inviter le soir à dîner dans les familles. Donc voilà, chaque soir on était invité dans une famille oranaise, ils invitaient toute l'équipe de tournage.
D'accord. Donc on revient du coup un petit peu à la cuisine, qui est aussi le deuxième sujet des tables de Manu, en dehors de l'actualité et des activités de ces invités. Et d'ailleurs on a une question pour vous, Lila. On a Assina qui nous appelle de Paris. Bonjour Assina.
Oui, bonjour. Salam alaikum, bonjour.
Salam.
Salam alaikum.
Alaikum salam, rahmatullah. Alors, je veux pour Sherazade.
Ah, vous voulez nous parler de Sherazade, je vous écoute.
Oui, oui, la cuisine.
Oui.
La cuisine algérienne, c'est pas que la cuisine algéroise, elle est très vaste, et vous savez.
Bien sûr.
Il y a 48 wilayas, Laïberk. Donc, c'est 48 wilayas, 48 cuisines algériennes. Voilà.
Oui, oui, tout à fait. Ben d'ailleurs, si vous avez suivi, par exemple, le tour du monde l'année dernière, où effectivement on a parlé un petit peu de toutes les cuisines, là, on parlait de la cuisine du Ramadan, on a fait effectivement une émission sur la cuisine algérienne où on rappelait que bien qu'elle soit assez peu connue en France, la cuisine algérienne, elle est très diverse, très variée. Mais c'est vrai que le souci, c'est que c'est une cuisine familiale, régionale, voilà, et qu'on mange beaucoup à la maison. Et du coup, dans les restaurants, on la trouve pas trop. Et c'est vrai que les Algériens, quand ils sont à Paris, qu'ils ouvrent un restaurant, soit, alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais ils font de la cuisine marocaine, soit ils font un peu de la cuisine, je dirais, les grillades, hein, les brochettes, tout ça, etc. Ça, il y en a beaucoup aussi à Paris. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de restaurants qui font de la vraie cuisine algérienne. C'est pour ça que nous, on a apprécié d'aller manger chez Sherazade au Mosaïque, boulevard Sébastopol.
Oui. Alors, allez-y. Pourquoi vous dites cuisine familiale? Mais toutes les cuisines, ça part plutôt de cuisine familiale. Toutes les cuisines du monde, à mon avis.
Bien sûr, quand je dis familiale, il faut que vous entendiez cuisine traditionnelle. C'est ça que je veux dire. Voilà, hein, c'est à ce niveau-là. Hein, mais effectivement, ce que je voulais dire quand je parle de cuisine familiale, c'est par opposition à la cuisine qu'on trouve plus dans les restaurants, qui est parfois revisité ou qui est parfois pas représentatif de la vraie cuisine qu'on mange justement dans les familles et chez les vrais Algériens. C'est ça que je voulais dire.
Par exemple, en l'Est, il y a le djeri. Le djeri, c'est comme un genre de chorba.
Oui.
Ça, ça ressemble très très peu, hein, mais c'est très délicieux. Ça serait bien de faire les autres cuisines de d'autres régions, c'est pas que d'Alger.
Ah, mais non, on fait pas que la cuisine d'Alger, hein, si vous avez écouté nos anciennes émissions.
Je parle pour Sherazade.
Ah, pour Sherazade. D'accord.
Oui, je crois qu'elle fait que algérois.
Ah, non. Non. Bah, d'ailleurs, si vous savez, il y a son émission sur Samira TV où elle est avec une vieille Volkswagen Coccinelle et elle parcourt toute l'Algérie. Avec sa Volkswagen Coccinelle pour aller justement prendre les recettes des vieilles mamas algériennes, les recettes de chaque wilaya et de chaque région et de chaque petit village. Donc ça, vous pouvez peut-être trouver ça sur internet, hein, c'est sur Samira TV et c'est une émission que fait Sherazade, et effectivement Sherazade dans son émission là pendant tout le Ramadan, elle a effectivement parlé de ces cuisines régionales. C'est justement pour ça que on a apprécié qu'elle ouvre un restaurant. C'est parce que ça permet justement de découvrir toute cette cuisine. Voilà. Ben écoutez, moi, à tous les cas, moi je vous invite justement à pourquoi pas aller goûter la cuisine de. Je sais pas si vous êtes à Paris, à Sina.
Oui.
Ouais, bah écoutez, dans ce cas-là, c'est 110 boulevard Sébastopol, Paris 3e, et vous pourrez même en discuter directement avec Sherazade, qui est présente pratiquement tout le temps.
Alors, je remercie beaucoup Sherazade. C'est la première personne, la première, première Algérienne qui a ouvert un restaurant algérien. Je pense que elle est la première.
Oui, oui, c'est ça, moi je vous confirme, parce que des restaurants algériens pour mes émissions, j'en ai beaucoup cherché à Paris.
Oui.
Et je peux vous dire que j'en ai pas trouvé. Hein, donc,
elle est avec vous, elle m'écoute.
Ah non, bah alors peut-être qu'elle nous écoute parce qu'elle sait qu'on parle de son restaurant aujourd'hui, mais bon, de toute façon, vous pouvez effectivement lui envoyer des petits mots sur Facebook, sur Internet, etc. Elle a pas mal de réseaux sociaux, plusieurs millions d'abonnés d'ailleurs, hein, comme quoi elle est effectivement très populaire, notamment en Algérie où elle fait ses émissions. Et puis vous pouvez aller la voir directement au Mosaïque. Je rappelle l'adresse, le Mosaïque by Sherazade, c'est 110 boulevard Sébastopol. À Paris, 110 boulevard de Sébastopol. C'est dans le 3e arrondissement à Paris.
D'accord.
Voilà. Ben, en tous les cas, merci de votre appel, Assina, et de votre fidélité.
Oui. Et puis, je la remercie beaucoup, cette dame-là. Je la remercie beaucoup. C'est la première dame qui a ouvert un restaurant algérien. Je la remercie beaucoup. D'accord. Tout le monde devrait la remercier.
Eh ben, écoutez, merci, si madame, jamais vous voulez aussi
bon
remercier... Si vous voulez aussi remercier Sherazade ou poser des questions à notre invité du jour, Lila Graffin, vous faites comme Assina, 01 53 48 3000. Merci Assina de votre appel et puis restez à l'écoute puisque on va parler justement maintenant du Mosaïque de Sherazade. Donc on parlait de cette rechta, donc plat effectivement algérois, hein, mais ça n'est pas que de la cuisine algéroise chez Sherazade. On y mange pas mal de choses. Alors on avait commencé par une petite kémia. On avait un petit assortiment de diverses kémia qui étaient bonnes, fraîches. Enfin,
bon, ça c'est vrai que salade de carottes au cumin, et il y avait ensuite une salade de
l'espèce de méchouilla un peu, crudité qui était très bonne, ouais.
Accompagnée d'une très bonne sauce, d'une bonne vinaigrette.
Un bon assaisonnement,
plutôt.
Oui, alors on y était en plus pendant le Ramadan, me semble-t-il. Et il y avait de la musique au sous-sol, hein, parce que chez Razad, il y a un espace au sous-sol où on peut écouter de la musique. Alors, c'était peut-être pas pendant le Ramadan, mais enfin, je sais qu'il y avait. Ouais, c'était juste après le Ramadan.
Après le Ramadan, oui, il y a une belle atmosphère chez Razad, hein. C'est une jolie clientèle, faite de à la fois de famille, de couple. Voilà. Et ensuite, donc, il y a un petit escalier qui mène à un sous-sol avec une salle de concert. Où ils passent donc des concerts de musique arabe.
Oui, alors il y a un joli décor assez sympa, un peu à la fois typique tradi et design en même temps. Et d'ailleurs, pendant qu'on dînait, il y a même des gens qui sont rentrés pour photographier le décor, pas pour venir dîner, mais pour photographier le décor. Et puis c'est vrai que au niveau de la clientèle, on peut dire que c'est une petite Algérie à Paris, quoi. C'est-à-dire qu'on a aussi bien une famille à une table, que des chichis à une autre table, et puis voilà, c'est ou et puis Monsieur Tout le Monde à une troisième table. Je pense que c'est un peu un.
Oui, je pense que c'est un lieu de où les gens se retrouvent aussi d'une certaine manière. Je pense que c'est ouvert à toutes sortes de gens. C'est pas ouvert qu'aux Algériens de Paris.
Ah bah oui, carrément, bien sûr. Alors c'est vrai que du fait de sa popularité en Algérie et auprès de la communauté algérienne, c'est sûr que c'est en tous les cas, il y avait beaucoup de clients algériens ou d'origine algérienne quand nous sommes venus. Mais évidemment, c'est pas du tout un restaurant communautaire avec des guillemets. Exactement. Et moi qui ne suis pas du tout d'origine algérienne, c'est vrai que je m'y sentais très bien et j'invite effectivement tout le monde à aller tester la cuisine de Sherazade,
qui ouais. En plus de sa cuisine a beaucoup travaillé la décoration de son restaurant, ouais. Qui est vraiment très joli, enfin, voilà, avec des jolis matériaux.
Voilà, on parlait donc des entrées. Alors chez Sherazade, on trouve aussi des bourreks, hein, qu'elle cuisine avec de la coriandre, des épices qui sont délicieux. La fameuse chorba frik. Alors ça, c'est un peu la soupe nationale, on peut dire. Hein, je pense la chorba frik, surtout en période de Ramadan. Hein, on adore ça pendant le Ramadan. Bon, une harira un peu plus œcuménique, hein, aussi. Voilà, mais enfin, en tous les cas, c'est une carte qui est pas figée, qui change souvent. Alors, bon, après, on avait, je crois qu'on avait, on était trois, on a pris tous des plats un peu différents, hein, pour essayer de goûter le maximum de choses.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous aviez choisi, vous?
Moi, j'avais choisi.
Donc, la fameuse rechta. Voilà. Donc, c'est vrai que, alors, bon, comme je dis tout le temps, moi, j'aime bien piocher dans les assiettes de mes voisins, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux. J'avais goûté effectivement cette rechta, qui est un plat. Alors, c'est vrai que. Ce qui est sympa aussi chez Razad, c'est que c'est vrai que des plats comme la rechta, qui sont des plats de cuisine familiale, je veux dire, hein, c'est pas des plats qui ont une présentation très très sexy entre guillemets. Ce qui est sympa, c'est que chez Razad, elle met un petit peu quand même de design, pas que dans le décor, mais aussi dans les assiettes. Ouais. Et du coup, c'est bon, mais c'est beau également.
C'est bien présenté.
Alors moi, j'avais pris un tagine d'agneau qui était vraiment délicieux aussi, avec des amandes grillées. Alors j'ai plus l'intitulé du plat exact, mais c'était effectivement avec des pruneaux. C'était une belle tranche de gigot d'agneau mijoté avec des pruneaux et autres. Et alors est-ce que vous avez retrouvé un petit peu les goûts de la cuisine de votre maman quand on a dîné chez Razade au Mosaïque, hein?
Oui, bah c'est tout l'intérêt de ce restaurant. C'est vrai que c'est à la fois un restaurant où, comme vous le dites, c'est très bien présenté, c'est très beau, le décor est magnifique, et à la fois on y retrouve le goût des assiettes de la famille, quoi.
Ouais. Alors donc cette cuisine effectivement traditionnelle au Mosaïque by Sherazade, 110 boulevard Sébastopol, Paris 3e. Alors je vais citer d'autres plats de la carte. Il y a le tagine zitoun, hein, tagine de poulet aux olives et carottes parfumées au citron. Le mderbel, qui est un tagine défiloché de veau en rosace d'aubergine au four, pommes de terre et pois chiches. Alors ça, on l'a pas goûté, mais je pense que ça mérite qu'on y retourne peut-être. Hein.
Ah, je pense aussi.
Tagine défiloché de veau en rosace d'aubergine au four, moi ça me parle assez. Ça tombe bien, je savais pas où dîner ce soir. Il y a le couscous afourou aussi. Alors c'est un couscous avec tous les légumes qui sont cuits séparément à la vapeur, et avec avec la graine de couscous qui est travaillée à l'huile d'olive. Ça a l'air pas mal aussi. Donc, encore une bonne excuse pour retourner chez Sherazade. Voilà. Et puis dans les desserts, alors. Bon, c'est vrai que on pense toujours que les cuisines du Maghreb, au niveau des desserts, ça se résume à des pâtisseries, mais pas que. Il y a je sais pas si je le prononce bien, le malbi ou le mlabi aux fruits, hein, une crème de lait parfumée à l'eau de fleur d'oranger avec une petite compote de fruits. Hein, ça aussi, j'ai pas goûté, mais il va falloir retourner pour voir ça et pour goûter ça surtout. Donc on vous rappelle l'adresse du restaurant Mosaïque by Sherazade, 110 boulevard Sébastopol à Paris 3e, et le numéro de téléphone 01 43 56 73 92. Je répète, 01 43 56 73 92. Autre numéro de téléphone si vous voulez poser des questions à notre invité Lila Graffin sur son métier de productrice de cinéma, c'est le 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. Et puis aussi, si vous voulez nous parler, comme a fait notre auditrice précédente, de cuisine, de gastronomie, nous donner une bonne adresse de resto ou nous demander une adresse de resto, hein, on a un petit carnet d'adresses avec Lila Graffin sous le coude, vous n'hésitez pas à nous appeler, 01 53 48 3000. On se retrouve après la pause.
Les tables de Manu revient dans un instant. Midi 13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le table de Manu avec notre invité du jour, Lila Graffin, qui vient nous parler de son métier de productrice de cinéma. Si vous avez des questions d'ailleurs à lui poser sur ce métier, pas forcément très connu, vous pouvez nous appeler 01 53 48 3000. Je répète 01 53 48 3000. Et puis si vous voulez nous parler aussi de gastronomie, qui est le sujet également de cette émission, puisque avec mes invités, je vais la semaine manger au restaurant. Et puis ils reviennent le week-end nous dire ce qu'ils ont pensé des restaurants. C'est le cas donc de Lila Graffin aujourd'hui, productrice de cinéma. On a parlé en première partie du Mosaïque, le restaurant de Scheherazade que vous avez pu entendre régulièrement sur l'antenne de Beurre FM, dont on vient de parler. Et puis on a fait un second restaurant cette semaine. Alors là, on est parti. Alors toujours Méditerranée, mais c'est vrai que la Méditerranée, on aime bien. Hein, on se refait pas. Hein, mais là, c'était de la cuisine italienne.
Sicilienne.
Ouais, même sicilienne d'ailleurs, oui, absolument, ouais. Hein, parce que le chef est propriétaire de ce restaurant qui s'appelle Giuseppe Messina. Alors, je vous ferai un petit peu après le pitch de la carrière de Giuseppe Messina, parce que c'est pas un débutant. Donc là, effectivement, c'est de la cuisine sicilienne. Alors lui, c'est un vrai Sicilien, hein, on a pu le constater, hein, Lila.
Oui, tout à fait.
Hein, donc il parle de sa terre avec passion, et puis des produits aussi, parce que c'est vrai que la particularité de ce restaurant, il y a quand même, je crois que entre les restaurants chinois et les restaurants italiens à Paris, je crois que c'est des restaurants qu'on trouve le plus, hein, je crois,
actuellement,
à Paris, hormis la cuisine française, évidemment. Et c'est pas toujours des restaurants très très bons avec des très bons produits, hein, les restaurants italiens. Et là, vraiment, déjà, la première chose avant de vous parler de ce qu'on a mangé chez Pane e Olio, et puis de vous détailler, de vous donner le nom des plats, on peut parler déjà des produits. Les produits qui sont utilisés dans ce restaurant sont vraiment très bons, hein, Lila.
Oui, et puis alors on a commencé par une dégustation d'huile d'olive,
ah oui,
qui est en vente.
Oui, oui, parce que c'est aussi partie épicerie fine. Alors des huiles d'olive très très différentes, justement, avec des terroirs différents. Alors on nous a servi ces huiles d'olive dans un espèce de petit plateau avec des trous à l'intérieur pour mettre l'huile d'olive, et puis on allait faire trempette avec un très bon pain aussi d'ailleurs.
Absolument, ouais.
Dedans. Alors trois huiles d'olive très très différentes, hein, finalement.
Oui, il y avait une huile d'olive qui était très fruitée.
Ouais, la première qu'on a goûtée, qui était ma préférée d'ailleurs, voilà. Peut-être vous aussi, je ne sais
ouais,
pas.
Oui, tout à fait, ouais. Très profonde et fruitée. Une seconde qui était plus neutre, qui doit servir à la cuisine de tous les jours.
Oui.
Et une troisième qui sentait un peu plus la terre.
Oui, c'est vrai. Alors, il y en avait une. D'ailleurs, la première, la responsable du restaurant qui nous a servi ces huiles d'olive.
Très fière de nous faire déguster ces huiles, d'ailleurs.
Oui, nous a dit que la première, c'était très bien avec du poisson. Et c'est vrai qu'effectivement, elle avait presque un côté iodé, je trouve, cette huile. Hein. Elle était très parfumée. Et c'est vrai qu'on imagine qu'avec des poissons, en accompagnement de poisson, c'est une huile d'olive parfaite. La seconde, comme vous le disiez, plus neutre, peut-être plus universel, hein, pour la cuisine de tous les jours.
Oui.
Et puis la dernière, effectivement, là, on était plus côté mer, mais plus côté terre. Là, on l'imagine plus, effectivement, pour cuisiner des viandes ou pour assaisonner une salade ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était... tout le monde a déjà goûté des huiles d'olive différentes, mais le fait de les goûter les unes après les autres, comme ça, on s'aperçoit vraiment...
Des
différences de goût et du fait qu'il y a un vrai terroir aussi au niveau des huiles d'olive, c'est pas seulement au niveau des fruits, des légumes ou autres. Alors, revenons à la cuisine de Giuseppe Messina. Alors, je vais dire en deux mots qui est Giuseppe Messina. Giuseppe Messina, il avait commencé il y a déjà longtemps à Paris, en ouvrant un restaurant qui s'appelait Les Amis de Messina, hein, qui était entre Nation et Bastille, si ma mémoire est bonne, avec son frère. Et donc Les Amis de Messina, c'était un très très bon restaurant italien parisien. Puis il est parti ouvrir son propre restaurant. Donc chacun a suivi sa route, hein, les deux frères Messina. Alors ils sont pas fâchés, hein, ils sont toujours en très bons termes, mais disons que chacun a suivi sa route. Alors le frère de Giuseppe Messina, il a ouvert un deuxième Ami de Messina, rue Réaumur de mémoire, où j'étais allé, où on mange également très bien. Quant à lui, Giuseppe, il a créé des restaurants qui s'appellent Non Solo Cucina, Non Solo Pizza, et puis là aujourd'hui, Pane et Olio, donc c'est avenue Mozart, au 117 avenue Mozart, pardon, à Paris 16e. Alors, on a commencé, alors on n'aurait pas dû, mais on a commencé pour accompagner l'apéritif par manger une mini pizza. Alors,
une
comme
pizzette.
Ça, une pizzette. Et alors, comme ça s'appelait pizzette, et on s'est dit, bon, ça va pas nous faire beaucoup de mal. Et on a pris une pizzette et pané et olio. Alors, c'est une pizza avec une pâte délicieuse déjà.
Très bonne,
je crois,
croustillante.
Hein. Ouais, croustillante et moelleuse en même temps. Hein. Ouais, donc, ouais. Un modèle du genre, cette pâte à pizza, avec une petite sauce tomate maison qui était délicieuse, des filets d'anchois, des olives un peu violettes, hein, des olives de Sicile, du basilic frais.
Très parfumé, les olives.
Voilà. Et alors, une découverte du caciocavallo de Sicile râpé sur la pizza. Mm. Donc, qui commençait juste à fondre, hein, quand on nous a amené cette mini pizza. En fait, c'est un fromage de Sicile sec,
ouais,
comme le parmesan un peu, mais qui a un goût vraiment très original. Déjà, cette petite entrée en matière, même si on voyait déjà que en terminant ça, on allait avoir du mal à terminer le reste, on est allé au bout quand même, hein, je crois.
Hein. Ah, c'était 10 sur 10 hein, pour la pizza. Hein. C'était ouais, vraiment délicieux.
Bah, d'ailleurs, pour le midi, ça peut remplacer un plat aisément. En tous les cas, c'était bien sympathique. C'est une mini pizza qui est facturée 9 euros. Alors, effectivement, par rapport à la taille de la pizza, c'est une mini pizza. C'est peut-être plus cher que dans un autre restaurant italien. Mais comme on vous le disait, l'origine des produits et la qualité des produits, hein, les bons produits, ça a un prix. Et donc il faut pouvoir les financer, on va dire. Alors donc on a commencé par une entrée, hein, on a fait entrée plat. Alors on vous dira après si on a réussi à aller jusqu'au dessert, mais nous on est parti sur la trilogie entrée plat dessert après cette pizzette.
Alors est-ce que vous aux antipasti ensuite,
c'est ça, hein. Après la pizza, les antipasti. Alors est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans votre pepperoni carricotta?
Ah, c'était délicieux, des petits poivrons.
Ah oui, poivrons rouges et jaunes. Alors je vais vous lire l'intitulé, puis après vous nous direz ce que vous en aviez pensé. Donc ce sont des poivrons rouges et jaunes confits maison, avec de la ricotta fraîche de Sicile, de l'huile d'olive et du basilic frais. Et ça, ouais, c'est facturé 12 euros.
Délicieux.
C'est une entrée très copieuse.
Et c'est une entrée très fraîche, hein, qui convient parfaitement aux températures, enfin pas celle d'aujourd'hui, mais en tout cas celle des jours précédents.
Oui.
Voilà, qui est à la fois un peu sucrée, délicieuse, avec une ricotta mousseuse à souhait, un basilic frais et des poivrons parfaitement confits et marinés avec un goût parfait.
Oui. Alors, cuisine sicilienne, mais Giuseppe Messina, c'est un grand chef, hein, et comme tous les grands chefs, hein, il y a aussi des petites créations, ce qu'on appelle des plats signatures. Là, on va parler d'une entrée chaude, même si le jour où on y était, c'était pas trop la saison pour prendre une entrée chaude. Mais ça m'a intrigué, j'y retournerai peut-être pour ça. C'est le Mili Burger, Rim Mili. Donc c'est un burger mais sans pain, puisque le pain est remplacé par des tranches d'aubergine ronde de Sicile qui font office de pain, de bun en fait, avec de la mozzarella, encore ce fromage sicilien, le caciocavallo, de la tomate, du basilic et le tout gratiné au four. Donc je pense que ça vaut le coup, Lila, si vous êtes partante, hein, on y retournera peut-être
pour
ça.
C'est
les
aubergines à la parmesane, voilà, à revisiter.
Exactement, hein. entre le burger et les aubergines parmesane. Ça nous donnera une bonne excuse pour y retourner, mais en hiver plutôt, ouais, hein, quand même. Hein. Alors, l'un comme l'autre, on a choisi de commander des pâtes après. Alors, en ce qui vous concerne, vous aviez de mémoire les Adja et Wagyu. Non, attendez, oui, c'est ça. Adja et Wagyu, c'est-à-dire des linguinettes à l'ail rose, huile d'olive, persil plat et avec un carpaccio de champignons bruns dessus.
C'est ça.
Alors, ça, effectivement, donc ça, c'est un plat de pâtes qui est facturé 12 euros. Alors là, par contre, 12 euros pour un plat de pâtes énorme comme ça.
Voilà, donc on était un petit peu étonnés. C'est vrai qu'en général, dans les restaurants italiens, la portion pâte est quand même relativement réduite.
Ouais.
Là, c'est l'inverse. Hein. On est en Sicile, c'est généreux. Donc l'assiette était
oui, là, là bah, n'hésitez pas à partir avec votre doggy bag parce que c'est même avec un appétit comme le mien, qui est un appétit de professionnel, on dira. j'ai pas pu finir mon assiette, hein, c'était impossible. Franchement, oui, non, des très bonnes pâtes, parfaitement cuites. Hein, la cuisson des pâtes est vraiment impeccable, al dente comme il faut. Donc là, c'était effectivement très très bien. Et puis on a un peu fait du teasing sur le dessert, mais bon, le dessert, on n'y est pas arrivé, quoi.
Mais non. Et encore, on est resté calme parce qu'on n'est pas parti sur la partie viande. On a vu les assiettes de viande arriver avec des morceaux de.
Il y avait notamment un travers de veau. Alors il y a qu'un travers de veau dans l'assiette. Hein. C'est pas comme les travers d'agneau, là, les petites grillettes de poitrine d'agneau où là vous avez x nonos. Hein. Non, là il y avait. Un travers,
c'était un morceau de 400 grammes, je sais plus, c'était absolument incroyable.
Oui, absolument. Oui, bah, je peux vous donner le poids. Je crois qu'il est sur la carte. C'est 420 grammes. Hein. Donc un travers de veau mariné à l'huile d'olive de Sicile, ail rose, tomate concassée, romarin, origan frais, le tout gratiné au four. C'est servi dans un petit poêlon à table.
Sans parler de la côte de bœuf.
Oui. Pantagruélique. Donc ne mangez pas le midi, hein, si vous allez manger donc chez Pane e Olio, le nouveau restaurant de Giuseppe Messina. C'est 117 avenue Mozart, Paris 16e. Vous le trouverez facilement sur Internet. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission, Lila. Bah, oui. Donc, on vous remercie d'être venu nous parler aussi un petit peu de votre métier de productrice de cinéma.
Plaisir.
De surcroît, le jeune cinéma algérien.
Absolument.
On va parler avec.
On va faire découvrir à tous.
Et on parlera avec Christophe parce que je pense que ça vaut le coup de vous faire revenir dans son émission Studio B. Pour ne parler cette fois-ci que de cinéma.
Avec grand plaisir.
Si Christophe est d'accord, vous pourrez parler de gastronomie aussi, j'imagine. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous pour cette émission
Les
Tables de Manu. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et de nouveaux restaurants testés pour vous.
Retrouvez les Tables de Manu en direct tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'application Beurre FM.